Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis avec mon ami Julien Dupuis. Comment ça va, Julien ?
Bon, ça va, et toi, ça va ?
Écoute, ça va, parce qu'on va parler de Bad Boys for Life. Donc en fait, non, en vrai, ça va pas.
Merde, attends, commence.
Non, on va parler de Bad Boys... Enfin, ça va, oui, ça va. Mais on va parler de Bad Boys for Life.
C'est-à-dire qu'en fait, ça s'était très bien passé avec Columbia après notre podcast historique sur Charlie et ses drôles de Charlie's Angels. Là,
Charlie's Angels, en français.
La nouvelle version. Donc on se dit, on va se rabibocher un petit peu avec ce grand studio américain. Voilà. En parlant de cette grosse merde de Bad Boys for Life.
Une grosse merde, ça commence bien, voilà.
C'est plus compliqué que ça.
Maintenant, on met quand même un peu les pieds dans le plat parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que Bad Boys for Life, c'est un film qui a été très très bien reçu quand il est sorti donc en début d'année, de manière même assez étonnante puisque.
C'est vrai, je m'attendais pas à ça. Moi,
D'une part, j'avais pas l'impression que la franchise était particulièrement appréciée et populaire auprès de la critique, mais ensuite le truc c'est que bon évidemment ça arrive après. Je pense que la problématique c'est comme on va en parler, ça arrive après pour ceux qui s'en rappellent éventuellement. Hein, nous oui, mais je parle dans la critique. Après Bad Boys 2 qui est quand même un monument de mauvais goût et de voilà donc en fait.
Et en même temps, je pense que le succès qu'a remporté le film est dû à Bad Boys 2. Clairement, je pense que Bad Boys 2, je pense que c'est un film qui tourne sur les platines ou en téléchargement et tout. À mon avis, hein, c'est un film qui a dû gagner en notoriété au fil des ans et tout, parce que finalement, des films comme celui-ci, bon, on va pas revenir dessus. On avait déjà fait
on a fait le podcast sur Michael Bay,
mais des films comme celui-ci, il y en a pas beaucoup en fait. C'est un film assez rare en fait, Bad Boys 2. Quel que soit ton avis sur le résultat final et sur on va dire l'intégrité artistique de ce film merveilleux, t'en as pas beaucoup en fait. Voilà, c'est un truc rare, c'est un truc que tu montres quoi. Tu dis ah putain, t'as pas vu ça, la séquence de poursuite. Voilà.
Par contre, le truc c'est que la chose sur laquelle on peut éventuellement tomber d'accord si tant est qu'en fait on ait une image générale de la franchise, je pense que l'image des gens c'est Bad Boys 2. Bad Boys c'est quand même un film un peu classique, un peu basique et certes stylisé de manière différente à l'époque où c'est sorti, mais voilà.
Et en fait ça conduit, je pense, cette réflexion là conduit à qu'est-ce que c'est en fait Bad Boys, parce que c'est une des grosses problématiques en fait de ce film, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'intérêt de Bad Boys, qu'est-ce qui fait intérêt, et pour moi il est nul, c'est-à-dire que l'intérêt de Bad Boys c'est Bad Boys 2 et c'est Michael Bay, et c'est Michael Bay qui se lâche. C'est un concept à la con, en fait, Bad Boys. C'est complètement nul. C'est un buddy movie de base qui vient sur le tard, qui joue avec une espèce de dynamique, avec un acteur qui est plutôt versé dans l'action, un autre peut-être plutôt versé dans la comédie.
À l'époque où le premier est sorti, c'était deux stars de la comédie. Hein.
Ouais, voilà, oui, en plus. Mais enfin, en tout cas, dès le premier,
maintenant, l'image de Will Smith, c'est un héros d'action.
A évolué, il était quand même positionné plutôt comme un acteur physique, quoi. Mmh. C'est-à-dire un mec avec des muscles et puis qui roule des mécaniques et puis qui est engagé dans les poursuites. De voitures et tout ça et en fait il y a aucun intérêt, en fait c'est rien Bad Boys quoi, c'est une fois que t'as enlevé Michael Bay, il reste rien et pour moi c'est le gros problème en fait de ce film, c'est-à-dire que ils essayent de construire quelque chose à partir de rien en ne sachant finalement pas trop quoi faire, c'est-à-dire que c'est
un film, je parle de Bad Boys for Life
c'est-à-dire que c'est un film qui a plein de soucis, mais je pense que le souci fondamental du film, c'est de ne pas savoir ce qu'il est finalement, c'est de ne pas avoir d'identité. Il en a peut-être trop, ou alors il n'en a pas assez, et en tout cas, elles ne sont jamais tranchées.
Alors, on va peut-être revenir un petit peu sur l'essence à la base du projet, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une suite très tardive, à la base, qui a été commandée à Joe Carnahan.
C'est un peu un film qui a été dans le développemental pendant un moment.
Voilà, c'est ça. Et moi, je sais que j'en avais parlé avec Joe Carnahan, même quand je l'avais rencontré en 2015. Et lui-même, en fait, finalement, il était à l'époque assez content d'avoir réussi à craquer le scénario parce que, voilà, comme tu l'as dit, en fait, les scénars de Bad Boys, enfin, ce que ça raconte, les méchants vers lesquels les méchants, on va dire, qu'ils essayent de traquer, on s'en fout. Enfin, c'est des persos qui n'existent pas. Tout est à la gloire des deux personnages principaux et de ce qu'on va faire autour d'eux, quoi. Mm-hmm. Et en fait, le truc, c'est que là, quelqu'un comme Carnage, je pense que ça lui suffit pas. Donc il essaye de raconter quelque chose. Ce qui reste des bribes de ça, en fait, dans son parce que du coup, c'est plus lui qui réalise finalement le film. Il y a quelques séquences qui sont vraiment des séquences à lui, mais qui, à mon avis, sont travesties. C'est-à-dire, par exemple, on le sait, parce qu'il avait partagé ça, en fait, des animatiques de la poursuite en sidecar qui cloue le film, enfin pas qui cloue pas le film, mais qui est un gros passage vers la fin, mais qui pour moi est une scène totalement naze. Enfin voilà quoi, je sais pas ce que t'en penses, et en fait du coup je pense que son film était beaucoup plus dur que ce qu'on pouvait s'attendre. En tout cas, ce que les financiers pouvaient s'attendre, les producteurs pouvaient s'attendre, en fait. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que je pense que là où Bad Boys for Life souffre d'une chose, c'est que c'est un peu devenu l'arme fatale 3. C'est-à-dire que en gros, t'as le premier film qui était d'une certaine manière, et là en fait ils se sont dit bon, on arrive 4-5 ans après, il y a beaucoup de popularité chez les gens, et en fait faut vraiment qu'on fasse un produit qui plaît. En fait, et du coup, enlever toutes les aspérités que tu pouvais avoir dans Bad Boys 2, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est pas possible. Et Carnage n'aurait pas fait ça. Il n'aurait pas fait Bad Boys 2. Ça, c'est une évidence. Mais je pense qu'il aurait fait un film beaucoup plus dur et beaucoup plus direct. Et ces bribes-là, elles sont là, mais elles sont complètement travesties. Après, on va rentrer dans le vif de ce que ça raconte éventuellement pour développer. Mais...
Moi, je suis pas. Je pense que le film de Carnage, tel qu'il l'avait rêvé, aurait posé souci, ou en tout cas, il aurait fallu admettre que tu avais une rupture claire. En gros, qu'il faisait pas un Bad Boys, quoi. Qu'il faisait son film. Qu'il s'emparait, en fait. Parce que.
Enfin, ce qui est pas plus mal, hein, dans le cadre de Bad Boys.
Non, mais pourquoi pas ? Je veux dire, c'est une solution comme une autre. Mais en tout cas, ça aurait été un truc radical. Ça aurait été un faux Bad Boys 3. C'est ça que je veux dire. Il se trouve que ça serait passé à Miami. Il se trouve qu'il y aurait eu Martin Lawrence et Will Smith, mais tel que moi je le perçois à travers Bad Boys for Life, de ce qui peut rester du film de Carnage, ça n'aurait rien eu à voir finalement. Et je pense qu'il aurait fallu, pour le public, mais même pour quelqu'un comme moi qui apprécie, si ce n'est Bad Boys 1, en tout cas le 2, il aurait fallu digérer ça. C'est-à-dire qu'il aurait fallu se dire bon, bah voilà, je vais pas voir Bad Boys 3, en fait, je vais voir. Un film d'action un peu vénère, un polar un peu vénère de Joe Carnahan, quoi. Ça aurait été tout à fait autre chose. Là, le problème, en fait, pour moi, c'est pas tant, en fait, qu'ils aient essayé d'ouvrir, en fait, le film ou quoi que ce soit. C'est que c'est un film qui est dans une indécision totale en permanence. Et je pense qu'il est dans une indécision totale parce que effectivement, parce qu'il a été à un temps, parce qu'il vient d'un auteur qui est complètement affirmé, qui est Michael Bay, quoi qu'on en pense encore une fois, qu'il a été travaillé, que ce film-là en particulier a été travaillé par un autre auteur très affirmé, qui est Joe Carnahan. Donc déjà là, il y a une problématique où tu te dis bon bah il y a deux univers qu'il faut essayer de rendre cohérents quand tu t'en pars, en fait, quand tu viens, quand tu as la troisième couche qui arrive là-dessus. Et il y a une dernière couche qui, alors pour moi, finit de tuer complètement le film à mes yeux, qui sont les notes de studio et surtout ce que Sony essaye de faire, en fait, du film. Moi, tel que je vois ce film-là aujourd'hui, c'est pas tant un film qui est issu d'un développement de L qu'un film qui est issu d'un studio qui, et c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué quand on parlait de Charlie's Angels, qui est en quête absolue de franchise. Ils veulent une franchise, c'est sûr et certain. Donc, en fait, dans Bad Boys for Life, tu sens qu'il y a une espèce de volonté du studio de faire une espèce de... un peu un truc à la Fast and Furious, c'est-à-dire que il y a par exemple cette volonté qui est très étrange et pas du tout assumée aussi de entourer Will Smith et Martin Lawrence de toute une espèce d'équipe de super flics qui seraient tous dépeints avec un caractère un peu tranché comme ça et éventuellement porteurs d'un univers qui leur est spécifique, quoi. Donc
après c'est pas ce que tu retiens du film, hein, moi,
non, pas du tout, mais ils sont là et ils paraissent aussi le film. Ouais. Et du coup, en fait, c'est un film qui te déstabilise tout le temps, mais de la mauvaise façon. C'est-à-dire que c'est un film qui est trop sérieux et pas assez fun, qui fait tuer des personnages importants de la franchise et finalement pour rien, parce que ça, il crée rien avec ça.
Mais ça, je pense que c'est quand t'enlèves. Je pense que c'est les résidus justement de ce que Carnahan a fait. C'est-à-dire que quand t'enlèves, en fait, Carnahan, moi je sais que t'es pas forcément fan de tout ce qu'il fait, mais Carnan c'est un viscéral. C'est quelqu'un en fait qui pour qui en fait une mort dans un de ses films elle compte. Et il l'a fait compter, c'est-à-dire que tu la ressens. Et y compris en fait quand c'est des hommes de main, des choses comme ça. Je pense à certaines scènes de Smoking Aces en fait où d'un seul coup ça te dévoile les tourments en fait des autres personnages et ce genre de choses. Et je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire justement avec dans une franchise qui ne fait pas ça de base, hein, ça c'est clair, tu vois. Et donc il a essayé de se réapproprier le film comme ça. Donc quand il fait tuer certains personnages comme ça, et y compris ça, on peut en parler parce qu'on va spoiler un petit peu, mais
On peut pas ne pas spoiler en parlant de Bad Boys for Life.
Justement. Et on vous engage quand même à voir le film avant, si le film vous intéresse. Et par exemple, il y a très rapidement dans le film, il y a une mise à mort en fait de Will Smith, où on essaye de te faire croire qu'il va y passer. Quoi. C'est-à-dire, évidemment, il n'y passe pas, mais en fait, c'est une manière de briser le personnage et de le faire revenir à ce qu'il avait pu être dans le passé, c'est-à-dire avant encore le premier Bad Boys. Ça, je pense que c'est clairement une idée de Carnahan. Vu effectivement le film que les studios et Bruckheimer ont essayé de faire à la fin, parce que c'est encore Bruckheimer qui produit pour le coup, quel intérêt en fait d'essayer de te raconter ce truc à part éventuellement de te faire une espèce de scène un petit peu choc, en fait tu dis merde, tu vois, mais qui va croire en fait pendant deux secondes, si ça fonctionne pas émotionnellement, on va dire, si tu veux, que Will Smith va y passer, quoi. C'est-à-dire il y a plus de film si Will Smith y passe. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que tu as un autre perso, tu pensais au personnage du capitaine qui est interprété par Joe Pantoliano.
Exactement.
Voilà, qui est un personnage totalement, c'est un bouffon dans les deux premiers. Hein. Moi je l'aime bien, il est rigolo, mais c'est un bouffon.
C'est un personnage surtout qui n'existe pas, il est juste pour gueuler, essayer d'être calme, et puis il n'y arrive pas. En fait, c'est ça, hein, c'est les caractérisations du perso, ça s'arrête là.
Mais le truc, c'est qu'en fait, dans Bad Boys 2 surtout,
même dans le 1.
Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, je pense que cette mort, c'était une façon d'essayer en fait d'impliquer la vengeance des personnages ou ce genre de choses en fait. Mais il y a plein de biais comme ça.
Du coup, c'est assez désagréable en fait en tant que spectateur. C'est-à-dire que c'est compliqué, moi je trouve, quand t'es spectateur, de pas savoir sur quel film tu es, quoi. Ce drame, cette tragédie introduite au forceps en fait à l'intérieur du film, à intervalles réguliers, de façon finalement totalement gratuite, parce que ça n'a pas réellement en fait d'impact. Il y a très peu de choses finalement dans ces tragédies qui ont un impact réel en fait sur le film. Il y en a un tout petit peu, mais très peu. Pour moi, c'est pas agréable en fait à voir un film comme ça, parce que tu te dis, ah bon, mais je croyais que j'étais juste là pour être détendu en fait, j'étais pas là pour être ému ou quoi que ce soit. Puis d'un coup, on te dit, ah mais non, mais t'es là pour être ému, mais en même temps, t'es pas ému. Alors du coup, t'as une distance par rapport à ces personnages qui s'induit et qui fait que tu t'impliques encore moins dans le truc. Et puis voilà, au final, tu te retrouves avec un film qui est vraiment ennuyeux et très mou. Et je pense que la mollesse du film, elle est induite par la conception du film aussi. Je pense que les réalisateurs et peut-être le montage ont un rôle à jouer là-dedans.
Je pense qu'ils ont un très gros rôle à jouer là-dedans.
Mais je pense qu'elle est aussi induite par justement cette problématique de ton du film. C'est-à-dire le fait que en fait, tu sais jamais sur quel registre de plaisir tu dois aborder le film.
Moi, je pense que le truc, c'est que... je pense que le truc qui est peut-être assez spécifique, j'essaye de m'extraire un peu pour comprendre pourquoi le film a pu plaire, on va dire, à ce point-là. Et pour moi, il y a peut-être deux raisons fondamentales. Il y a plus de plot dans ce Bad Boys, finalement, que dans les deux premiers.
Être honnête. Réunis, ouais.
Voilà, pour ceux qui sont intéressés par ça, si tu veux, et qui prennent pas Bad Boys, pour, en tout cas Bad Boys 2 pour une grande œuvre conceptuelle, comme nous, on peut le prendre... et prendre mot de pied là-dedans.
Ah oui, c'est clair. Voilà. Il y a une volonté de créer des personnages, créer un antagoniste qui est du corps, qui fasse sens en plus par rapport à l'évolution des deux personnages principaux et tout. Oui,
je pense que ça, c'est un des trucs qui peut plaire. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a une espèce de tendance, moi, je trouve, dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, très actuel, hein, déjà dans la façon dont c'est filmé, dans la façon dont c'est... Pour moi, ça ressemble à un clip de Booba. Hein. C'est mon ami Cédric Fontana qui m'avait sorti cette référence. J'ai dit, putain, mais c'est vrai, il a raison, ça ressemble à un clip de Booba. Ah,
le problème, c'est que moi, je ne connais pas les clips de Booba.
Bah, heureux homme. Mais voilà, le truc, c'est que en fait, ça ressemble à un clip de Booba, ce qui finalement, en fait, est problématique, parce que quoi qu'on pense, encore une fois, de Michael Bay et de Bad Boys 2, c'est vraiment très poussé en fait, en matière esthétique. Tu vois, là, en fait, c'est vraiment dans l'air du temps, c'est vraiment très basique. Et c'est aussi dans l'air du temps, dans la façon en fait dont on va gérer finalement, justement les points, tu vois, de scénario, c'est-à-dire la façon dont on va aller, dont on va. Moi, je trouve Disneyifier entre guillemets, si tu veux, la dureté du film, quoi. C'est-à-dire la rendre vraiment mettre une blague, faire un truc, tu vois, mais pour désamorcer.
Je pense que c'est les notes
de
studio.
Oui, c'est les notes de studio,
hein,
mais sûr, hein. Mais si tu veux, par exemple, bon, pour raconter un petit peu vite fait ce que Bad Boys for Life raconte, c'est donc ils ont, enfin, t'as Martin Lawrence qui va être grand-père, voilà, ça c'est une chose. T'as Will Smith qui se pose des questions sur le fait qu'il a 50 balais et qu'il peut pas courir la nana pendant tout le reste de sa vie, quoi. Et en gros, si tu veux, il y a quelqu'un qui cherche à le tuer, qui y arrive presque, et qui en fait s'avère être son fils. Et tout ça, c'est commandé par la mère du fils en question, qui, est plus ou moins une chef de cartel, un truc comme ça, quoi.
Super cast, une super tête d'ailleurs.
Ouais, non, mais bon, après, ouais, tu vois, voilà. Mais le truc, c'est que voilà le personnage, quoi. Et quand je parle de Disneyification, c'est-à-dire que tu as un personnage, en fait, le fils, comme c'est dévoilé, là j'ai spoilé, donc assez tardivement, en gros, c'est le méchant du film. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il commet des crimes assez, assez graves, en fait, si tu veux. Mmh. Sauf que, comme c'est le fils de Will Smith, il faut quand même lui trouver une espèce de forme de rédemption. Donc, en fait, il y a un espèce de truc comme ça où ils ne peuvent pas assumer totalement,
ça, c'est une note de
totalement, voilà, totalement la tragédie du film.
Voilà,
quoi.
Ça, c'est une note de studio typique. C'est-à-dire qu'ils te campent et ils font un certain effort, on va dire, pour te créer un méchant... bah vraiment méchant, quoi, vraiment menaçant et tout. Et puis, in extremis, effectivement, il a une rédemption qui est un peu foireuse.
Mais c'est le genre de note de studio très actuelle.
Complètement. Il y a même une séquence post-générique avec lui. Tu dis, il y a donc cette espèce de team là qui sont réunis.
On va essayer d'en faire un gentil dans
boss.
Le prochain. Quoi.
Ça, truc, il va revenir. Et puis, on pourrait faire peut-être un spin-off sur lui. Si, tu le sens, tout ça. Il y a toutes ces arrière-pensées qui sont hyper, hyper évidentes, quoi. Et qui rendent, encore une fois, le film un peu déplaisant, quoi.
Alors toi, t'as vu le premier film des...
Alors c'est pas leur premier film, en fait, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. C'est-à-dire que moi, on a dit beaucoup de mal du film et tout, je pense à juste titre. Moi, je trouve quand même qu'il y a deux, trois petites qualités. Je pense que les trois petites qualités qui viennent des deux réalisateurs, qui sont des réalisateurs belges, en fait, qui ont d'ailleurs embarqué aussi sur le film leur directeur de la photo. Alors moi, la photo dans Bad Boys for Life, c'est un vrai problème, en fait. Il y a un truc hyper saturé, toujours très coloré et tout. Alors moi, encore une fois, je ne connais pas les clips de Booba, mais pour le coup, je trouve que tranche. Elle est stylisée, quoi, mais elle est imbuvable, écœurante.
Elle est écœurante, et puis surtout, c'est pour le coup, en fait, ça faisait... Alors, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais ça faisait très longtemps que, en fait... parce qu'aujourd'hui, quand on est en numérique, on essaye de te le cacher, on essaye de faire image cinéma, tu vois, etc. Et là, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un truc aussi mal caché, en fait, quelque part, parce que tu sens, en fait, tout ce que moi, je pourrais appeler tous les travers du numérique, en fait, pour moi, dans les facilités que ça induit.
Ah oui,
quoi.
Oui, c'est pas forcément ce qui me... Encore une fois, vraiment, j'ai eu un problème de saturation, enfin d'étalonnage à mort et tout, quoi. Mais par contre, donc, le truc, en fait, avec ce film, et c'est peut-être le point qui m'intéressait le plus, et c'est peut-être le seul truc que je dois sauver, parce que je pense que ces deux mecs-là sont à sauver, c'est que donc c'est réalisé par deux réalisateurs belges qui sont assez connus là-bas, notamment parce qu'il y en a un qui avait participé
très
à un
jeune,
jeu
hein.
de télé. Hein.
Ouais,
ils ont une trentaine d'années, ouais, tous les deux. Black n'était pas leur premier film, mais je pense que c'est vraiment le film qui les a révélés, hein, sur la scène internationale, parce que c'est grâce à Black, en fait, qu'ils ont été débauchés par Jerry Bruckheimer. Hein. C'est pas sur les trucs qu'ils ont développés derrière, y compris international et tout. Et Black est un film qui n'est sorti qu'en e-cinéma en France, parce qu'il a... Il a eu une sortie, on va dire, tumultueuse en Belgique. Le distributeur avait très peur, en fait, que la sortie, en fait, de ce film-là génère des mouvements, en fait, enfin, en tout cas, des séances au cinéma qui soient un peu... houleuse, quoi, on va dire ça comme ça. C'est un film qui se passe à Bruxelles dans un quartier un peu très populaire, que je ne connais pas, pour le coup. Et c'est une histoire de... En gros... Très grossièrement, c'est une transposition de Roméo et Juliette au milieu d'une guerre des gangs à Bruxelles. Et c'était un film un peu, un peu grossier sur certaines choses, un peu maladroit et tout. Mais en tout cas, il y avait une énergie qui était super. C'était un vrai film de rue. Et tu sentais que les mecs, ils aimaient ça, en fait. Ils aimaient faire de l'image. Ils avaient envie de cinéma, quoi. Vraiment, c'était pas un film qui se contentait d'être... disons, une espèce de docu-fiction dans un quartier. Ils auraient pu se contenter de ça, mais non. Justement, il y avait une vraie volonté, en fait, de faire du cinéma dans Black. Et j'ai toujours trouvé très dommage, d'ailleurs, que le film ne sorte pas en salle. Il l'aurait mérité, quoi, très clairement. Alors,
pour le coup, je trouve que ça se retranscrit. Alors, j'ai pas vu Black, moi, mais je trouve que ça se retranscrit absolument pas dans Bad Boys for Life. Pour moi, c'est tout sauf du cinéma. Enfin, en tout cas, la façon dont ils filment le truc, c'est vraiment au kilomètre. C'est du travail de shooter pur.
Ben, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que moi, je vois, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui leur ont échappé. Je pense
oui,
que
bah ça,
sur un film
évidence,
comme
hein.
ça, ils étaient pas, ils ont pas eu la main sur le montage final. À mon avis, je pense que quand ils voulaient faire certains cadres, à mon avis, il devait y avoir un mec du studio qui derrière sur le plateau leur disait non, mais tu peux pas faire ça et tout. Mais il y a quand même des volontés de faire des petits trucs. Par exemple, il y a un truc moi qui m'agace dans le cinéma d'action contemporain, c'est le recours au plan séquence systématique pour cacher l'incapacité des réalisateurs à savoir découper une scène. Et eux, ils ont du plan séquence en fait, mais du plan séquence plus travaillé que ça. Par exemple,
alors eux, on va peut-être les citer quand même.
Oui, pardon. C'est Adil Arbi et Bilal Fallah. Fallah, voilà. Ouais.
On dit eux. Mais...
Oui, c'est vrai. Je suis désolé, mais.
Non, mais.
Et par exemple, tu vois, il y a une scène de. Par exemple, il y a une scène de gunfight en fait dans un garage là. Alors, il y a une idée, par exemple, graphique. Que je trouve pas inintéressante, qui est pas assez poussée, et en plus on vient de dire que moi je trouvais la photo écœurante et trop saturée, mais il y a des pots de peinture en fait dedans, et quand ils tirent dedans ça fait des gros nuages de couleurs en fait dans lesquels, et je me suis dit quand j'ai commencé à voir ça, le problème c'est que c'est pas poussé du tout, mais je me dis putain il y a un truc à faire, c'est rigolo, je crois pas l'avoir vu avant, et c'est sympa, et cette scène là se termine avec un, justement c'est pas un plan séquence mais c'est un plan un peu plus long que ce que tu vois d'habitude et que je trouve intéressant avec un système de panneaux, donc je pense qu'il y a un raccord numérique dedans avec une explosion qui projette un mec sur des pales en fait de trucs, et ça empale le mec en fait sur ces trucs de palettes en fait, ouais. C'est pas des pales mais c'est trucs de palettes et tout, et ça ils le font quand même à quelques reprises. Et ben moi j'étais content de voir ça. C'est là où je me suis dit il y a quand même quelqu'un là sur le plateau qui a eu envie de tester des trucs, qui a eu envie de faire ça. Et ça ils le font mine de rien. T'as une bonne grosse dizaine de reprises en fait où les mecs essayent vraiment de. Ben ils ont réfléchi à ça et puis ils ont envie de faire du cinéma quand même. Tu vois ces gars-là. Donc moi j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire vraiment.
Le problème, c'est que je jette
pas avec Bad Boys.
Alors ça je sais pas, mais le truc c'est que je pense qu'ils sont partis pour faire des gros films comme ça maintenant. Et en plus d'après ce que j'ai compris, ils sont eux pour le coup relativement contents du résultat et
ils sont sur le flic de Beverly maintenant.
Voilà, et sur le succès, donc voilà, oui, le flic de Beverly 4 pour Netflix. Mais voilà,
enfin, ils vont devoir gérer Eddie Murphy, enfin t'imagines le bordel.
Oui, mais bon, je pense que gérer Will Smith et Martin Lawrence, enfin va dire, faut quand même un peu, tu disais d'un côté il y a Will Smith qui est le héros d'action et Martin Lawrence qui est le comique, mais là Martin Lawrence il a même pas essayé. C'est-à-dire que tu regardes le film, c'est Martin Lawrence qui a bouffé Martin Lawrence. On lui a dit, dis donc, il faut se mettre au sport là, parce qu'on va tourner Bad Boys 3. Il a fait non, c'est bon, j'en ai rien à foutre. Quoi.
Surtout, donc, il dégage un truc un peu dépressif. Ça fait partie des trucs désagréables, je trouve, du film. Il est triste, mais déjà,
il faut préciser un truc. Hein. Martin Lawrence, ça fait des années qu'il n'a pas tourné. Ouais. C'est un film qu'il attendait quelque part, j'ai l'impression, pour remettre sa carrière sur les rails depuis très longtemps. Encore une fois, comme on l'a dit, c'est un development hell. Hein. En fait, on peut retracer l'annonce de Bad Boys 3, je crois, au début des années 2010, hein, vraiment. Donc, à 2012, 2013, par là, quoi. Et là, le film il sort en 2020. Donc oui, il y a, je pense que il l'a attendu avec un paquet de chips à la main, et plus qu'un même, je pense, parce que voilà, c'est un héros d'action. Un héros d'action qui n'est pas du tout... voilà. Alors même si le film joue avec ça parce qu'il part à la retraite ou je ne sais pas quoi, c'est à un moment donné, c'est assez étonnant de se dire qu'il n'a pas du tout essayé. Quoi. Et l'autre truc, moi, je pense que le problème, c'est que c'est un film qui est une hydre à 15 têtes, en fait, ce film. Quoi.
Ouais,
c'est-à-dire
sûr,
que
c'est
moi, les points où je reconnais, on va dire entre guillemets, mais pour moi, ça ne fonctionne pas hein, dans le film, hein, mais les points où je reconnais Carnahan, c'est, je me rappelle, par exemple, il y a une séquence... Ou quand on apprend justement que ce gosse a de manière assez mal foutue, en fait, on apprend que c'est le fils de Will Smith, le fils caché. Il y a toute une scène où en fait Will Smith parle de son passé et qu'il a été avant le premier Bad Boys. Et ça, c'est pour moi, c'est une évidence en fait que c'est une idée de Carnahan parce qu'il avait plus ou moins fait la même chose dans l'agence touriste en fait. C'est-à-dire que en fait,
et puis il essaye de redonner du corps, je pense, au personnage à rebours. En fait,
voilà, c'est quoi. Ça. Et il l'avait fait dans l'agence touriste.
Mais s'il marche pas, moi, je trouve que ça marche pas.
Je pense que le problème, c'est pas que ça. Je pense que
je
le problème,
suis même pas
c'est
sûr que ça
aurait
marché chez Carnahan, moi.
Bah, ça marche pas dans l'agence touriste, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique de l'agence touriste, c'est qu'il essaye de donner en fait, des personnages qui existent, on va dire, depuis 20-30 ans, et en fait, il essaye de leur donner une
faut quand même dire aux gens que s'ils entendent des parasites, c'est à cause du chat de Stéphane. Non, mais parce qu'on est aussi sur Internet, c'est aussi le royaume des chats, Internet. Ouais. Et donc, il faut dire qu'il y a Kofi, la petite chatte adorable de Stéphane, qui vient bien nous casser vient les
frotter,
bonbons.
Qui vient frotter sa queue là, sur sa fourrure. Sur,
donc, pardonnez-nous si vous entendez des petits bruits, voilà, parce que c'est son caméo. Quoi.
Elle m'a vu vous regarder Bad Boys for Life, elle a déjà pas aimé, donc elle en a marre, j'en parle. Quoi,
on va finir. Alors,
non, mais en fait, ce point, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que oui, il essaye, mais en fait, c'est tout le problème en fait je pense aussi de ces grosses adaptations ou de ces grosses franchises, c'est-à-dire que dans une moindre mesure Shane Black pour moi c'est ce qu'il a essayé de faire avec Iron Man 3, c'est-à-dire qu'en fait tu as deux premiers films qui présentent un personnage de façon assez je trouve sommaire, et en fait lui il s'est dit mais moi je peux pas faire un film, en fait je peux pas faire un arc de personnage si j'ai pas si en fait dans les deux premiers il y a pas d'arc, tu vois, donc je vais essayer d'en créer un. Mais en fait, c'est artificiel parce que du coup, en fait, il a exactement la même problématique, c'est qu'il crée une séquence pré-générique qui se déroule avant les événements du premier Iron Man. Donc là, c'est un peu la même logique. Il lui crée un passif qui n'existe pas du tout.
C'est du rétro-engineering.
Voilà, c'est ça. Non, mais il lui crée un passif qui n'existe pas. C'est sûr. Et en fait, qui justifie.
C'est super dur parce que tu as l'impression, en tant que spectateur, qu'on te rabat les cartes, en fait.
Mais surtout.
On te dit, ah, mais tu croyais que les règles du jeu, c'était ça ? Non, mais en fait, c'est ça.
Et éventuellement, on te retire ce que, éventuellement, certains spectateurs ont pu apprécier dans le film. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est qu'il y a, par exemple, ce moment donné où tu as Martin Lawrence qui lui répond, mais assez sérieusement, c'est quasiment pas une blague dans le film. Ah, c'est pour ça que tu t'habilles comme un dealer de drogue, en fait.
Ouais.
Et là, tu te dis, mais. Non, c'était le look que Michael Bay voulait lui filer dans les années 90, et basta. Enfin, tu vois, je veux dire, ça, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas, ça participe du succès de Bad Boys, c'est-à-dire ce style visuel. Donc c'est étonnant. Bon, je comprends qu'il essaye de se réapproprier le truc, mais je pense que c'est pas la bonne façon de faire. Et pour le coup, je pense que c'est vraiment imputable à Carnahan, ce genre d'idée. Parce que, encore une fois, je l'ai vu faire dans. Enfin, on l'a vu faire dans l'agence Tourisque. Et voilà. Après, bon, bah ouais, pour boucler, moi, je pense que. Bon, est-ce qu'on peut.
Bouclons. Putain, c'est dur de boucler là-dessus. La vérité, je crois, pour boucler, moi, j'ai envie de dire ça. La vérité, c'est que ce podcast-là, on devait l'enregistrer il y a un moment.
C'est vrai, ça devait être le premier
qu'on devait faire. Donc, moi, ça fait deux mois et demi que j'ai vu le film. Et quand il a fallu le réenregistrer là, je me dis putain mais je l'ai complètement oublié en fait ce film.
J'ai envie
de boucler là-dessus, c'est-à-dire que il y a eu un côté un peu désagréable quand je l'ai vu, mais même pas suffisamment désagréable, suffisamment déstabilisant pour que finalement ce film me laisse une marque quoi. Encore une fois, c'est un film qui est passé mais alors comme ça pfout. Et je me demande même si les gens qui ont apprécié le film lors de sa sortie en salle
s'est passé beaucoup de choses depuis.
Non, mais c'est clair, mais je sais pas s'ils se souviennent même du truc quoi. Enfin, qu'est-ce qui construit finalement ce film en fait ? Je pense que c'est ça le problème, c'est
moi,
je pense qu'il construit
en tout cas
rien,
le
quoi.
Truc c'est que ce que je me n'explique pas, c'est que je n'arrive même pas à prendre du plaisir à un film comme ça, c'est-à-dire que c'est un film d'action qui est très mou. Qui ne propose pas de scènes d'action particulièrement intéressantes, qui part effectivement, il y a un problème de ton qui aurait probablement eu aussi avec Carnahan, hein, je pense, hein, même dans une moindre mesure, mais en tout cas voilà. Et puis surtout qui effectivement, comme tu dis, sans les notes de studio à plein nez en fait.
Alors donc, je me souviens très très bien, parfaitement, j'ai un souvenir cristallin de cette magnifique scène où ils parlent tous les deux. De trucs dans le cul avec alors qu'ils sont filmés par une caméra vidéo dans le 2 et que cette discussion intime est retransmise sur la totalité des écrans et qu'il y a une grosse maman noire qui est très choquée par ce qu'ils sont en train de
mais
dire et tout voilà.
Bah, je pensais que t'allais même pas parler des rats qui baissent ou
des rats qui baissent, mais non, mais même au-delà de ça quoi, je veux dire voilà, j'ai un souvenir.
Mais je sais pas, en fait c'est marrant parce que je me demande si en fait en faisant ce film là alors Carnahan clairement je pense que non. Mais les studios se sont posés la question de que ça faisait partie finalement de l'ADN de Bad Boys en fait, c'est-à-dire c'est l'humour graveleux noir déplacé hein, clairement de Michael Bay, que je pense qu'il y a que lui qui pouvait
tout
le faire
ça,
quoi,
ouais. Ouais.
Et d'ailleurs enfin pareil non événementiel total le caméo de Michael Bay. Moi, j'aurais fait jouer un dealer de drogue ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, mais là, tu vois, il joue un maître de cérémonie qui marie la fille de Martin Lawrence. Et c'est avec. Et pareil, alors, là, il faut qu'on en parle, ça, par contre.
De quoi, quoi ?
L'apparition de Reggie.
Ah oui.
Reggie, attends, ça, voilà. Ça c'est naze. Enfin, c'est là. En fait, c'est là où je me suis dit le film il est mal engagé. Il y a pour faire vite, il y a moi cette scène qui me fait beaucoup rire dans Bad Boys 2.
La scène
en fait avec Reggie qui a un gosse de 15 ans qui a l'air d'en avoir 30 donc qui vient chercher la fille.
Soit 10 ans quoi. Voilà, mais sauf que non.
Voilà et qui
Ah j'ai envie de le revoir. Ça y est. C'est terrible.
Qui vient chercher la fille pour son premier rendez-vous. Mm. C'est leur premier rendez-vous à eux deux. Et donc,
c'est une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma. Hein.
Je pense qu'on peut le dire.
Ah, on peut le dire comme ouais, ça, je pense. Ça. Avec Lara qui baise.
En plus, quand tu penses qu'elle a été improvisée. Quoi.
Ça se sent pas en plus. Ouais.
et donc, cette scène, en fait, voilà, ça présente ce personnage. C'est complètement anecdotique. On le reverra jamais. Et là, aujourd'hui, c'est le personnage qui va se marier avec
Non, mais tu sens le studio qui essaye de capitaliser sur
voilà.
tout. En fait.
Sauf
c'est
qu'en
ça,
fait,
c'est terrible,
en
ça.
Capitalisant sur ça.
Ils détruisent le perso.
En fait, voilà, ils refont rien avec ce personnage-là.
Bah ouais, c'est
c'est-à-dire, en fait, il est accepté, contrairement à la scène. Alors qu'en fait, ce qui aurait été drôle, c'est qu'il continue à le charrier 20 ans après, quoi, tu vois. Et là, tu auras retrouvé les personnages. Enfin, moi, je pense, tu vois.
Mais c'est marrant, hein, comment ce film. C'est marrant parce que Bad Boys for Life, je pense que pour beaucoup de gens, il a été plus apprécié parce qu'ils y ont vu plus de noblesse que chez Michael Bay. Alors que paradoxalement, en fait, ce qui faisait le...
Il y en a moins.
Bah oui, paradoxalement, il y en a moins. Ouais. C'est-à-dire que ce qui tue aussi le film, c'est son côté hyper mercantile.
Policier,
quelque part, beaucoup plus que chez Michael Bay, qui était un film de... Quelque part, par défaut, une espèce de film d'anar, quoi. C'est-à-dire un mec qui n'en a rien à foutre de rien, quoi. Et qui détruit tout, quoi.
En tout voilà. cas, ce qui est clairement...
Bad Boys 2, grand film anarchiste.
Ouais, un film qui ressemblait,
moi,
un film qui ressemblait à rien quand il est sorti, qui ressemble toujours à rien maintenant. Donc voilà, enfin, par rapport à ce qui existe dans ce genre-là, dans le cinéma d'action, quoi.
Film unique.
Voilà, unique. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là.
On va s'arrêter sur Bad Boys 2, en fait.
Voilà. Donc en fait, on est tombé d'accord sur un film colombien, Julien.
Ah putain!
De nouveau!
Ouais,
parce qu'en
non,
fait, en fait j'aimerais te rappeler que j'aime pas Charlie's Angels. Hein. Je sais
ah,
pas
putain,
si t'as.
Non, mais pourquoi tu reviens là-dessus?
Bah, c'est toi qui en a parlé. Merci Julien.
Bah, non, mais merci à toi. Merci Alain, merci.
Merci
Kofi,
merci
la petite chat.
Merci Kofi à la technique.
Kofi à la technique, ouais. Élément du chaos.
Voilà. Et merci à tous de nous avoir suivis. Bad Boys for Life, ça sort là en vidéo, donc si vous voulez le rattraper ou si vous l'avez pas vu en salle. Si on vous a quand même donné envie de le voir malgré tout quoi.
C'est pas sûr.
Et moi
vous
je vous engage.
Tous vu déjà. Clairement, Charlie's Angels, ils l'ont tous.
De toute façon, si vous voulez voir des trucs à la Bad Boys, il faut nous suivre sur Instagram.
Parce que c'est
les mêmes filtres, on utilise les mêmes filtres, on utilise les mêmes trucs et tout. Donc voilà. Y a pas
Stéphane est aussi habillé comme un dealer
comme
de
un
drogue.
Comme un dealer de drogue de Miami. Donc voilà, donc c'était Transition Parfaite, Twitter, Instagram, Facebook.
Comme n'importe quel dealer de drogue de Miami qui se respecte.
Dealer de podcast tu vois, qui se respecte. On est sur Apple Podcast, on est sur SoundCloud, sur notre site. Et voilà, et moi je vous dis à la prochaine Julien.
Ah ouais, à la prochaine.
Save big money on everything for your next project at Menards. Spring is here, making it the perfect time for outdoor projects. Suncast storage sheds are an excellent solution for protecting outdoor lawn and gardening tools. They're easy to assemble, and the all-weather construction provides water resistance and UV protection. Save big on Suncast storage sheds. View our selection of Suncast products today in-store and on Menards.com. Save big.